prendre conscience de ce que nous vivons vraiment. S'épuiser pour bien faire. André Gide écrivait « Je n'aime point ceux qui se font un mérite d'avoir péniblement œuvré, car si c'était pénible, ils auraient mieux fait de faire autre chose. » La joie que l'on y trouve est signe de l'approbation du travail et la sincérité de mon plaisir, mais le plus important des guides.
Un homme vient en atelier et se présente en disant « Moi, je n'ai pas de sentiments, encore moins de besoins. » Même si souvent nous n'en sommes pas conscients, nous ne pouvons pas être dépourvus de sentiments. Même si nous croyons que nous sommes à l'écoute des besoins des autres exclusivement, nous ne pouvons pas être dépourvus de besoins. Bien plus, nous consacrons l'essentiel et peut-être la totalité de notre temps à tenter de satisfaire ces besoins que nous méconnaissons. Si nous pensons que nous sommes uniquement à l'écoute des besoins des autres et non des nôtres, nous ignorons simplement que nous prenons alors soin de l'un des besoins les plus forts et les plus répandus chez l'être humain, prendre soin des autres, contribuer à leur bien-être. La vieille et malheureuse habitude de la pensée binaire donne à croire que prendre soin de soi conduit à cesser de prendre soin des autres et que pour bien prendre soin des autres, il faut s'oublier. Pourquoi y aurait-il opposition entre le soin que nous prenons des autres et celui que nous prenons de nous-mêmes? Quand je pense aux êtres, nombreux, qui ont payé de leur personne ou qui font payer aux autres l'oubli de soi, je suis pris d'une immense tristesse. Cette tristesse m'indique à quel point je voudrais que les êtres humains comprennent que, s'ils ne s'occupent pas des autres pour leur propre joie et bien-être d'abord, il vaudrait mieux qu'ils fassent autre chose. Combien de personnes, en particulier dans la relation d'aide et dans le domaine de l'éducation, se sont usées et s'usent jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la dépression nerveuse, dans le soin de l'autre et l'oubli de soi. Elles se font souvent à elles-mêmes une telle violence pour bien faire qu'elles ne sont plus capables de ne rien faire. Elles se sont tant coupées d'elles-mêmes que leur énergie, que leur vitalité s'est épuisée, que le ressort s'est cassé. Et c'est par un choc, soit dépression, accident, deuil, perte d'emploi, que la vie parfois les ramène à elle. Les parties non écoutées de nous-mêmes se rappellent vigoureusement à nous. Ainsi, la violence entretenue, souvent de façon parfaitement inconsciente vis-à-vis de nous-mêmes, appelle une réaction violente de la vie. D'autres personnes font également inconsciemment payer à d'autres cet oubli de soi. Combien de personnes en relation d'aide sont à ce point surmenées qu'elles en viennent à perdre disponibilité, humour et humanité et finissent par causer, malgré leur souci de bien faire, plus de tort que de bien. Ayant pratiqué le bénévolat engagé pendant près de 10 ans, dans une association qui s'occupe de jeunes ayant des problèmes de dépendance diverses, de délinquance, d'anorexie, de dépression, de prostitution, je puis témoigner de 2 choses. Il est urgent, pour survivre, de différencier clairement le fait de prendre soin et celui de prendre en charge. La seule façon de prendre soin durablement et adéquatement de qui que ce soit, c'est selon moi d'en retirer un profond plaisir, de ressentir un grand bien-être dans chaque chose accomplie pour cette personne. Si ne serait-ce qu'une partie de nous agit par devoir, par sacrifice, par ce qu'il faut, et ressent une obligation, une contrainte, une culpabilité, cette partie mange l'énergie et la vitalité et se venge tôt ou tard en se manifestant par la colère, la révolte ou la dépression. Conscient que mes besoins ne sont pas en opposition, je suis tout entier dans ce que je fais et les jeunes sentent la disponibilité et la joie que cette unité intérieure procure. Cela éveille leurs propres besoins de vitalité, d'engagement, de goût de vivre. Mais revenons aux besoins. Nous pouvons donc souvent nous couper totalement de nos sentiments et de nos besoins, c'est-à-dire nous interdire de les ressentir, de les écouter et bien les bétonner. Toutefois, nous ne pouvons pas être dépourvus de sentiments et de besoins, même si souvent nous n'en sommes pas du tout conscients. Cette conscience est précieuse parce que je crois de plus en plus que le fait de ressentir et de partager est ce qui nourrit le plus profondément notre nature humaine. Ainsi, notre bien-être le plus intime et le plus essentiel naît de la qualité de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, avec les autres et avec les choses qui nous entourent. N'est-ce pas quand nous communiquons clairement avec nous-mêmes et avec nos proches, quand nous sommes bien reliés à nous et à ceux que nous aimons, quand les rapports se vivent dans l'estime et la confiance, dans ce que j'appelle le bien-être ensemble, que nous ressentons les plus grandes joies? Notre bonheur, notre bien-être ne vient pas de ce que nous possédons, ni de ce que nous faisons, mais de comment nous vivons notre relation avec les êtres, les activités et les choses. Depuis que je cherche à comprendre et à trouver un sens à la difficulté d'être, je constate que les personnes qui dégagent un bien-être profond, une joie d'être au monde, sont celles qui privilégient non pas la multiplication des activités, des possessions, des rencontres, mais la qualité de la relation qu'elles entretiennent avec les êtres, les objets et les choses à faire, en commençant par la qualité de la relation qu'elles entretiennent avec elles-mêmes. Ces personnes ne cherchent pas à remplir leur vie de choses à faire ou de gens à voir, mais à alimenter la vie, les relations qu'elles nourrissent et les choses qu'elles font. Il me semble donc vraiment que notre vraie richesse, notre vrai patrimoine, la source de nos joies profondes et durables, est là, dans notre faculté de nouer des relations profondes, durables et nourrissantes avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers qui nous entoure. Et cela est sans doute la chose à la fois la plus évidente et la plus difficile, et pour cause. Nous sommes en effet rarement en rapport avec la réalité telle qu'elle est. Mais la plupart du temps, nous sommes en rapport avec la réalité telle que nous croyons qu'elle est, ou plus précisément, telle que nous craignons qu'elle soit. Nous basons souvent nos réactions sur nos impressions, nos croyances et nos préjugés, plutôt que sur ce que nous ressentons vraiment et personnellement, de sorte que nous ne sommes pas adéquatement à l'écoute de nous-mêmes. Nous agissons en fonction de critères extérieurs, l'habitude, la tradition, le devoir imposé ou supposé, la crainte du regard de l'autre, l'autre étant les parents, le conjoint, les enfants, les milieux sociaux et professionnels, ou, plus simplement, cette partie de nous-mêmes que nous ne connaissons pas bien, qui ne nous est pas familière et dont nous avons peur qu'elle nous juge et nous culpabilise. Enfin, faute de pouvoir comprendre et traiter nos propres besoins avec aisance et souplesse, et faute de pouvoir, par conséquent, comprendre et traiter les besoins des autres avec aisance et souplesse, nous renonçons souvent à nos besoins pour faire plaisir aux autres, pour être gentil, et excédé d'avoir été si longtemps gentil ou inquiet, de ne pas voir nos besoins reconnus, nous imposons nos besoins aux autres, ou encore nous attendons que les autres devinent nos besoins que nous n'avons même pas formulés et parfois même pas identifiés. Et s'ils ne le font pas, nous leur faisons des reproches et les jugeons. Vous voyez que l'idée n'est pas de perdre la tête, mais bien de la remettre à sa place. L'idée est de dire à notre tête, à notre processus mental, « Merci pour vos bons services, j'ai besoin de vous souvent, par exemple pour relire l'addition au restaurant, faire ma déclaration d'impôt, rédiger un contrat, analyser une situation, gérer mon budget, mais pas tout le temps. Je ne veux pas que vous commandiez toute ma vie, que vous dirigiez tous mes choix comme une tour de contrôle. » J'ai aussi besoin de faire confiance à mon intuition, d'écouter mes sentiments, de traiter mes besoins avec aisance et respect. Au fond, j'ai besoin de me sentir intégré et réconcilié. Je ne veux plus être divisé, déchiré entre ma tête et mon cœur. Je ne veux pas être un cerveau sur pattes.